Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, je suis content parce que on continue ce matin sur Philippiens. J'espère que vous prenez le temps de le lire et même de le relire. On en est à Philippiens 3 et ceux qui ont des wagons à raccrocher, faites-le. Prenez le temps de vous plonger dans cet épître. C'est vraiment génial de parcourir un livre et de découvrir un peu toute la dimension que l'auteur a voulu nous transmettre et pas simplement de se focaliser parfois sur un, deux, trois versets, mais vraiment de rentrer dans un livre en entier. Alors, je n'ai pas eu un des passages les plus simples de Philippiens ce matin, donc c'est Philippiens 3, 1 à 9. Mais merci Seigneur, parce que ce qui a été partagé ce matin, ben vous allez voir, c'est les points que j'ai préparés pour ce matin. Et donc je suis vraiment reconnaissant au Seigneur de préparer le message dans les paroles qui ont été données. On va parler de la foi ce matin, on va parler du temple, on va parler du peuple de Dieu ce matin. Et tout ça, ça a été déjà prophétisé. On peut afficher le texte, vous pouvez prendre vos Bibles, Philippiens 3, versets 1 à 9. Je pense que ça serait bien qu'on finisse ce temps par un temps de prière à la fin. Donc on va essayer de finir pour midi. Mais voilà, je pense qu'on peut déjà préparer nos cœurs à répondre à ce que Paul nous dit là, et à répondre au Seigneur. On va commencer par le lire, et puis après on le découpera. « Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. » qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurai le sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le suis bien davantage. Je le puis, pardon. Moi, circoncis le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant au zèle persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Waouh. Mais, il y a des mais qui sont très 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 forts dans la Bible, et celui-là il est très très fort. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui. Non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Seigneur, merci pour ta parole, merci parce que c'est elle qui nous enseigne, Seigneur. Et aide-nous ce matin à mieux la comprendre, Seigneur, et qu'elle produise un fruit, Seigneur. Digne de la repentance, Seigneur, et un fruit qui te glorifie. Amen. Amen. On peut vous occuper des... Voilà. J'ai découpé un peu ce passage en quatre points qu'on va regarder ce matin. Le premier, c'est « prenez garde ». Le deuxième, c'est un mot sur les circoncis. Qu'est-ce que Paul veut nous dire par là ? Qu'y a-t-il de plus important que Christ dans nos vies? Et puis on terminera en lui, par la foi. Alors Paul commence ce passage dès le verset 2 en disant « Prenez garde ». C'est curieux, hein? Il y a vraiment une mise en garde de Paul. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Donc là, Paul, il n'y va pas avec les pincettes. On se rappelle, c'est une église à qui il ne fait aucun reproche et envers qui il a beaucoup d'affection. Et là, c'est comme un papa qui parle à ses enfants et qui veut les protéger. On a déjà vu que ce n'est pas la première lettre que Paul écrivait. Et ici, nous voyons que ce n'était donc pas la première mise en garde de Paul face aux fausses doctrines qui circulaient déjà à l'époque. Nous savons que dès les débuts, l'Église a été perturbée par toutes sortes d'influences qui tentaient de détourner les croyants du message de l'Évangile et de Christ lui-même. En 6 versets seulement, Paul va citer 6 fois le nom de Christ. Il rappelle le cœur de la foi chrétienne. Merci pour ce témoignage, Joseph, parce que c'est ça le cœur de la foi chrétienne. Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre. Tout ce qui viserait à détourner nos regards de la personne de Christ dans nos vies, Paul nous dit « prends garde ». Ça veut dire « mets-le à l'écart de ta vie ». Et c'est ça, je crois, le message fort de ce passage-là, de cette péricope. Le sens du mot « pardon ». Prenez garde, c'est celui de discerner. Paul nous dit « ouvrez les yeux, discernez et gardez-vous-en ». Paul nous encourage à discerner les doctrines, les pensées qui nous environnent. Et elles sont nombreuses. Et ce que nous devons faire, c'est simplement les passer à la lumière de Christ, à la lumière de la mort et de la résurrection de notre Seigneur. L'Église, dès les débuts, subissait des pressions, et des pressions de toutes parts. Paul nous parle ici des chiens. Je suis de suite allé voir dans le grec pour essayer de calmer Paul. Mais oui, c'est bien le mot qu'il emploie. Qui sont ces chiens? Ce sont des personnes méchantes, ceux qui ne croient pas au Seigneur. Et qui sont là pour faire du mal. Philippe était en Grèce, si vous vous rappelez, en Macédoine, et il y avait des personnes qui séduisaient par leurs paroles, par leur philosophie, qui en apparence pouvaient sembler être bonnes, mais qui dans leur vrai but étaient de mordre, de faire du mal. On peut passer là. On peut lire dans 2 Corinthiens 7 ceci, « À notre arrivée en Macédoine, donc c'est là où est Philippe, notre chair ne connut pas de repos. Partout, des tribulations, au dehors, des luttes, au dedans, des craintes. » Ce n'était pas de tout repos. Ou alors à Thessalonique, un petit peu plus loin que Philippe sur la carte, toujours en Macédoine, en acte 17, « Mais les Juifs jaloux prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace et provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. » Aujourd'hui, il existe toujours des gens méchants qui ont pour seul but faire du mal aux autres. Quand nous vivons longtemps entourés par seulement des chrétiens, eh bien je pense qu'on peut avoir tendance à baisser notre garde. Mais le monde contient des personnes méchantes qui cherchent à faire le mal, à dominer, à humilier, à voler, à tuer même. J'ai regardé quelques statistiques. En 2009, chaque jour dans le monde, on a recensé 540 meurtres, 900 viols déclarés, 9800 voitures volées. Je me suis arrêté, ça m'a suffi. Et on a, sans parler des guerres, des attentats ou de la cybercriminalité, il existe des chiens, aujourd'hui aussi. Paul parle ensuite des mauvais ouvriers. Ce sont ceux qui, en apparence, semblent œuvrer pour Dieu, mais qui, au final, construisent mal et amènent les communautés, malheureusement, vers leur ruine. Il a toujours existé des personnes qui se sont autoproclamées prophètes ou ministères pour l'Église, mais en fait qui ne sont ni connues ni envoyées par personne. Et de nos jours, je crois qu'on devrait faire attention avec l'accès massif à l'information sur Internet. Nombreux sont ceux qui s'autoproclament prophètes ou enseignants ou apôtres. Prenons garde, Paul nous dit, à ce que nous écoutons. Et surtout, je crois qu'un des conseils importants, parlons-en ensemble. Ne nous isolons pas à cause d'une soi-disante nouvelle révélation, mais osons venir confronter la doctrine avec les enseignants de l'Église locale, avec les anciens, avec des personnes ressources que vous connaissez bien, comme Nicolas Thévenet, comme Rémi Gomez ou comme Jean Hay. Sachez que nous, les anciens, nous avons cette démarche. À chaque fois que nous nous questionnons sur tel ou tel point de doctrine, nous ne nous isolons pas dans notre coin, mais nous confrontons nos idées, nous confrontons ce que nous pensons avec d'autres personnes et d'autres référents théologiques. Si certains parmi nous sont en demande de bonnes ressources, surtout n'hésitez pas à venir nous voir. Il y a plein de bonnes ressources. Ce n'est pas le problème. Le problème est de se nourrir de la bonne manière. Et enfin, la dernière catégorie dont Paul parle ici, c'est les faux circoncis. Alors, ça c'est une traduction parce que dans le texte grec, alors on comprend pourquoi il y a ce mot faux, mais dans le texte grec, il n'existe pas. C'est les circoncis. C'est le mot katatomé, qui signifie ceux qui ont été coupés dans la chair. Alors je pense que Paul ne met pas en garde ici contre les Juifs de manière générale. Rappelons-nous, il était lui-même juif. Mais il met en garde contre ceux qui, parce qu'ils sont juifs, prennent autorité sur l'enseignement donné dans l'Église et revendiquent un statut spécial dans l'Église. On peut remarquer cette tentative par certains juifs d'influencer les communautés locales, les églises, à divers endroits dans le Nouveau Testament. Paul recadre cela fermement dans plusieurs épîtres, et on peut en citer trois en particulier, Galates, Rome et Philippe. Ces groupes voulaient imposer des choses comme la circoncision ou le retour à la loi mosaïque ou simplement d'imposer d'autres traditions juives. Et ils voulaient l'imposer aux communautés païennes, non juives. Voilà les trois catégories de personnes dont Paul nous parle ici. Et les amis, ces trois catégories de personnes se baladaient dans les églises. Et ça, il faut qu'on le réalise. Ces trois catégories de personnes se baladaient dans les églises locales. Et Paul encourage à garder les yeux ouverts, à discerner ce qui est dit et à tenir à l'écart quand c'est besoin. Pour nous, il ne s'agit bien sûr pas de scruter son voisin. Pour voir s'il fait partie d'une des trois catégories, bien sûr que non. Mais néanmoins, ne pensons pas qu'une église locale ne regroupe que des chrétiens. L'Église de Jésus-Christ, oui, est composée de vrais croyants en Jésus. Mais les communautés, dans les communautés locales, il y a à la fois le bon grain et l'ivraie qui poussent en même temps. Dans une église locale, il y a des chrétiens affermis sur lesquels nous pouvons nous appuyer. Merci Seigneur. Mais aussi des nouveaux convertis, ceux qui découvrent la foi et qui ont besoin d'être affermis sur les Écritures et sur la foi. Il y a aussi les visiteurs ou les sympathisants qui, eux, ne sont pas encore à Christ, mais qui se sentent bien de visiter les églises et qui y trouvent un endroit chaleureux. Et puis, Paul va nous dire, il peut y avoir aussi, attention, des chiens, des mauvais ouvriers qui peuvent se joindre à une communauté pour profiter de la communauté, de la générosité des chrétiens, tout en semant le trouble, la discorde, les conflits, je ne sais pas quoi, amener la perversion. Ils essaieront d'introduire des pensées et des doctrines qui ont pour but de détourner nos regards de Christ, de son œuvre à la croix et de sa résurrection. Alors pour conclure ce premier point, je terminerai en disant, s'il vous plaît, priez pour vos dirigeants. Priez pour vos anciens. Priez pour vos diacres. Priez pour vos responsables de groupe de vie. Prions ensemble afin que Dieu nous donne de discerner et de mettre à l'écart tout ce qui ne correspond pas à Christ et la foi en sa mort et en sa résurrection. Amen. Et là, je pense que c'est la communauté entière qui doit se lever dans la prière parce que nous voulons rester sur Christ. Waouh. Les circoncis, deuxième point, on continue. On reprend au verset 3. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Puis là, on a l'énumération du pourquoi. Et puis Paul termine en disant, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. La circoncision du cœur, en parallèle avec la circoncision de la chair, était quelque chose qui était déjà prophétisé dans l'Ancien Testament. On peut lire par exemple dans Deutéronome 30 au verset 6, normalement il y a une slide, « L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. » La circoncision de la chair, donc dans l'Ancienne Alliance, était le signe de l'appartenance au peuple de Dieu, et donc à Dieu lui-même. C'était le signe marqué dans la chair. Ça va, tout le monde sait ce que c'est que la circoncision ? Je ne fais pas de dessin. Hein. C'était le signe marqué dans la chair et scellé par effusion de sang. Et c'était le signe que Dieu faisait alliance avec le peuple d'Israël. Avec la mort et la résurrection de Jésus, Dieu fait une nouvelle alliance avec les hommes. Et cette fois-ci, la circoncision n'est plus physique. L'effort humain, ce que Paul appelle la confiance dans la chair, le sang humain n'est plus requis, car il s'est avéré impotent et inefficace. Dans la nouvelle alliance de Dieu envers son Église, c'est le sang de Christ qui a coulé. Ce sang est suffisant et tout puissant pour nous transformer de l'intérieur. C'est ce dont la Bible parle quand elle parle de la circoncision du cœur. En Hébreux 8, au verset 10, il est rappelé ce verset de du prophète Joël. « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Dieu fait alliance d'une manière différente dans la nouvelle alliance et la conclusion, ils seront mon peuple. Dans cette nouvelle alliance, Dieu vient par son esprit habiter dans notre être intérieur. Le temple dont Aline nous a parlé ce matin de l'ancienne alliance est remplacé par nos corps et nous devenons, selon l'expression du Nouveau Testament, une habitation de Dieu en esprit. 1 Corinthiens 3, 16. « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Et c'est ce que Paul, j'ai fait une petite digression, mais on revient au texte, c'est ce que Paul affirme à Philippe au verset 3. « Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte. » Comment ? Par l'Esprit de Dieu. Qui nous glorifions en qui ? En Jésus-Christ. Et qui ne mettons point notre confiance dans la chair. Les circoncis ici, c'est-à-dire le peuple de la nouvelle alliance, sont ceux qui rendent un culte à Dieu par l'Esprit. Car désormais, l'Esprit est répandu sur tous les croyants qui glorifient le Seigneur Jésus-Christ. Et Paul, en fait, ne fait que reprendre les propos de Jésus face à la Samaritaine en Jean 4, quand il lui a dit « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Qui est la vérité ? Esprit, Jésus-Christ. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Merci de suivre avec les slides. Paul ponctuera son énoncé en disant que lui-même aurait de nombreuses raisons de se confier dans la chair. Il est circoncis dans la chair. Il est issu de la lignée juive. Mais face à Christ, tout ça n'a aucune importance. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, Paul dit, je les ai considérées comme une perte à cause de Christ. Paul est venu à Christ, il a été sauvé par Jésus. Désormais, il glorifie Christ par l'Esprit de Dieu. Il a compris que la circoncision qui mène à la vie éternelle est celle du cœur. Et que l'appartenance au peuple juif, au peuple de l'ancienne alliance, n'était pas suffisante pour recevoir la vie éternelle en Christ. Pour nous, comprenons que ce qui fait que nous sommes circoncis, ce qui fait de nous le peuple de Dieu, qui va hériter de la vie éternelle, c'est juste le fait que nous appartenons à Christ et rien d'autre. Amen. C'est important de poser ça dans chacune de nos vies. Ce qui fait de nous les circoncis et donc le peuple de Dieu, c'est parce que nous appartenons à Christ. À chaque fois que vous ajouterez quelque chose en plus, vous sortirez du cadre de la nouvelle alliance. Ce qui m'amène au point numéro 3, qui était, j'ai oublié, c'était juste pour voir si ça suivait, mais qu'y a-t-il de plus important que Christ ? Verset 8. Et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue. Waouh ! Paul considère toute sa vie passée comme quelque chose qui ne doit pas venir s'opposer à la connaissance de Jésus-Christ. Et les mots qu'il emploie sont très forts. perte, renoncer à tout, de la boue. Et le mot boue est vraiment très soft dans le grec. Ça veut dire déchet. Ça veut dire ordure que l'on jette à la poubelle, quelque chose qui n'a aucune valeur. À quoi suis-je attaché dans ma vie, les amis? À quoi suis-je attaché? À ma culture? À ma patrie? À ma nation? À une autre nation que je porte dans mon cœur? À ma maison? À mes loisirs? Qu'y a-t-il dans ma vie qui pourrait venir concurrencer mon accès à la connaissance de Jésus-Christ? C'est une vraie question et je peux vous assurer que je me mets avec vous quand je pose cette question. Si et quand nous identifions des choses de ce type, alors Paul nous encourage à réajuster nos priorités. Face à la splendeur et à la joie de connaître toujours plus Jésus, rien ne saurait faire concurrence. Il est celui qui a les paroles de la vie éternelle. Il est la vie, 1 Jean 5. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Avoir le Fils signifie être saisi par lui et le connaître. Connaître toujours plus Jésus, c'est être toujours plus rempli de la vie éternelle. Est-ce que nous le réalisons? Autrement dit, si nous voulons être heureux dans nos vies, si nous voulons nous sentir bien dans notre famille, dans notre travail, dans la vie de tous les jours, cherchons toujours plus à connaître Christ. Si ton quotidien s'est broyé du noir, déprimé à longueur de journée, remets la priorité sur connaître Christ. Si tu es passé ou si tu passes par une épreuve difficile, concentre-toi sur Christ. Connais-le mieux et il te guidera pour t'en sortir. Si tu es trop occupé dans ton quotidien pour passer du temps avec Jésus et apprendre à le connaître plus, alors remets les priorités dans le bon ordre. Car tout le reste, Paul nous dit, ce sont des ordures. C'est la poubelle qu'un jour il faudra sortir et jeter. Des ordures sans valeur, comparées au fait de connaître Christ et sa gloire. Saint-Esprit, il n'y a que toi qui peux attester ces choses en nous. Et Seigneur, alors qu'on va prier tout à l'heure, je prie que tu commences déjà à parler à nos cœurs sur les choses dont on a besoin de reprioriser dans notre vie, Seigneur. Et on va terminer cette péricope par « En lui, par la foi ». Afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui. Non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Paul termine ce passage en mettant l'accent sur la foi en Jésus. Rappelons-nous que Paul écrit cette lettre vers la fin de son ministère, de sa vie chrétienne, depuis une prison. Ce qu'il est en train de nous livrer ici, c'est à la fois l'expérience d'une vie chrétienne et de son vécu, et à la fois sous l'inspiration du Saint-Esprit. Nous passons assez souvent sur les mots de liaison quand nous lisons la Bible, et il y en a des très très importants. Et là, il y en a un où Paul dit « afin de ». Afin de. Ce mot nous dévoile le but après lequel Paul courait. Afin de, allez-y, gagner Christ. Voilà pourquoi Paul se levait le matin. afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui. Merci Joseph encore pour ce témoignage. C'est vraiment ça. Parfois, il y en a qui sont déçus de leur vie. Ils se disent « Oh mince, j'aurais pu vivre ça, j'aurais dû vivre ça. » Si tu gagnes Christ et tu es trouvé en lui, tu as tout gagné. Tu as tout gagné. Une vie accomplie, une vie réussie est celle où, à la fin, au dernier souffle, nous sommes trouvés en Jésus-Christ. Ce qui est important pour l'éternité, ce qui vaut de la peine de se battre et de vivre pour, c'est être en Jésus-Christ. Tout le reste n'a aucune valeur, aucune importance. Rappelons-nous, Paul avait grand sujet de mettre sa gloire dans plein d'autres choses. Et il nous dit non. Ce qui est important, c'est que tu sois trouvé en Christ. Que je sois riche ou pauvre, marié ou célibataire, avec ou sans enfant, célèbre ou anonyme, malade ou en bonne santé. Toutes ces choses passeront et disparaîtront. Ce qui perdurera pour l'éternité, c'est être trouvé en Christ. C'est très très profond ce que Paul nous partage là. C'est très profond. C'est une leçon de vie. C'est une leçon de vie. Parfois quand on est jeune, on met ça très loin. Mais si vous couriez déjà dès la jeunesse pour les bonnes choses, après quoi est-ce que je cours chaque matin dans ma vie? Paul, lui, court après Christ. Et il ajoute comment nous devons courir. Non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Nous devons courir nos vies par la foi, et pas n'importe quelle foi, la foi en Christ. Ce qui importe n'est pas que nous accomplissons ce que nous accomplissons au travers d'une religion ou même au travers de la loi de Moïse. Ce qui importe, c'est ce que Christ a accompli et continue d'accomplir au travers de son Église, c'est-à-dire au travers de chacun d'entre nous. Jésus est mort à la croix. Il a pris ma place face au châtiment de Dieu. Et cela m'est imputé à justice. La condamnation est tombée, ma faute est expiée. Ça, c'est important. Si j'ai la foi en cela, alors je suis déclaré juste devant Dieu. Puis Jésus est ressuscité des morts et il établit son royaume sur la terre au travers de son Église. Les œuvres de Christ sont réalisées au travers de ses disciples et ce sont seulement celles-là que le Père récompensera après le jugement des œuvres de chacun. Tout ce qui est en dehors de Christ n'a aucune valeur. Ça va être brûlé, Paul dira dans l'Épître aux Corinthiens. Mes amis, ça vaut la peine de prendre le temps de méditer cela. Est-ce que je suis une course effrénée dans ma vie ou par moi-même, j'essaie de construire ma vie, de lui donner du sens ou une direction? Ou bien, est-ce que je me repose sur Christ, cherchant toujours plus à le connaître lui et ne désirant qu'une seule chose, être capable d'accomplir les œuvres qu'il a préparées d'avance pour moi? Les œuvres que Jésus a prévues d'accomplir au travers de ma vie. Être trouvé en lui, non avec ma justice, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. Jésus est le chemin. Amen. Ça veut dire quoi? c'est lui que je cherche à connaître. Jésus est la vérité. Ça veut dire quoi ? C'est lui que je cherche à connaître. Jésus est la vie. C'est lui que je cherche à connaître et à expérimenter. Amen.